Question, que pourront promettre les futurs candidats à la présidence française, donc, avec un tel taux d'endettement? Jean-Marc Daniel, on est à un an presque pile de la présidentielle. Quelle marge de manœuvre est-ce qu'il reste aux futurs candidats pour effectivement établir un programme, des programmes qui soient économiquement viables?
Alors, je crois que leur marge de manœuvre est faible. Alors, ils ont deux solutions. Ou bien, ils font un discours un peu churchillien en disant, écoutez, le pays a été plongé par la pandémie dans une situation exceptionnelle et lancer un appel à l'effort. Et je pense que ça pourrait être gagnant. Oui. C'est-à-dire que se positionner sur le thème, il faut faire un effort parce qu'on a effectivement été contraint par la pandémie.
C'est jamais le cas lors des présidentielles en général. Hein. Le candidat qui dit, il faut arrêter de dépenser, il faut faire un effort,
j'entends bien. Ça n'a jamais été porteur. Et c'est vrai que quand vous regardez les premiers ministres qui ont mené des politiques dites d'austérité, et même si Pierre Mauroy avait dit, mais non, l'austérité c'est fini, nous, avec nous, la gauche, c'est la rigueur. C'est-à-dire l'austérité plus l'espoir. Que ce soit ceux qui ont fait l'austérité ou la rigueur, c'est-à-dire qui ont prétendu mettre l'espoir, Raymond Barre, Jacques Delors, Alain Juppé, leur
avenir
n'a pas été très payant. Néanmoins, je pense qu'un discours, dans les circonstances actuelles, qui serait un discours de vérité, pourrait être payant, d'autant plus que je pense que la population a quand même conscience et est inquiète. C'est-à-dire, on le voit.
Caractère exceptionnel.
Oui, avec le taux d'épargne que nous voyons qui se développe. Au départ, on pouvait penser que c'était parce que les gens ne pouvaient pas aller dans les magasins dépenser. Mais là, objectivement, le taux d'épargne qui se consolide montre que la population est un peu inquiète de l'avenir.
Alors, si ces marges de manœuvre pour financer un futur programme présidentiel sont étroites, c'est parce que la crise, elle a un coût. Et ce coût, Xavier, c'est votre chiffre du jour.
Et oui, c'est 424 milliards d'euros. C'est ce que va coûter l'épidémie de Covid aux finances publiques françaises en 2020, 2021 et 2022. C'est les chiffres donnés par le gouvernement. Une somme qui prend en compte à la fois la baisse des recettes fiscales et les dépenses exceptionnelles comme le fonds de solidarité et le chômage partiel. Alors pour vous donner juste une idée, 424 milliards d'euros, c'est 8 fois le budget annuel de l'éducation nationale. Et c'est à peu près les dépenses de l'État sur une année. C'est donc considérable. Mais Xavier Rago, est-ce que ça n'est pas trop?
Non, c'est pas assez.
Ah ouais?
C'est pas assez. C'est pas assez. La France est un pays qui aide le moins par rapport aux autres pays européens. Ce chiffre-là qui a l'air énorme, qu'est-ce que c'est ce chiffre? C'est de l'argent que l'État a donné aux Français pour éviter de tomber dans la pauvreté, pour éviter que les entreprises fassent faillite, pour profiter du rebond après la pandémie.
Donc c'est le financement du chômage partiel, l'activité partielle.
Voilà, c'est ça dont il faut parler.
Les prêts garantis par l'État, etc., etc.
L'État a pris, et heureusement, comme tous les pays développés, et l'État français moins que les autres, il a pris à sa charge d'aider les populations les plus fragiles. Heureusement qu'on a fait ça. Et on n'a pas fait assez.
Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en plus?
Ce qu'il a fallu en faire en plus, je pense que c'est vraiment le débat actuel. Autant on a fait assez bien quand même. Avec l'activité partielle, avec le fonds de solidarité, vous voyez, on voit les faillites d'entreprises sont faibles, le chômage est relativement contenu.
On a fait 900 000 suppressions d'emplois, il y en a 350 000, ce qui est déjà énorme.
Voilà.
Mais
voilà.
Ce qui est moins.
Voilà. Et donc le taux de chômage, pour donner des chiffres, hein, on prévoit autour de 8,7-9%. Donc c'est beaucoup, mais par rapport à la crise qu'on a vécue, heureusement, on a stabilisé ce revenu. Donc ce n'est pas l'argent qu'on a acheté par la fenêtre, c'est l'argent qu'on a donné aux Français. Ce sera la condition de la reprise. La condition de la reprise, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de crise. L'État est endetté parce qu'il a donné de l'argent aux Français. Et les Français ont beaucoup d'argent, qu'ils vont consommer, j'espère. Et est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue? C'est ça la question que nous pose Joe Biden. Pourquoi on continuerait? Il faut un peu investir pour la transition énergétique. Il faut investir un peu peut-être pour notre système éducatif, pour notre système de soins. Est-ce qu'on dit tout ça, ça coûte trop cher ou pas? Je sens que vous allez m'arrêter, alors j'arrête là.
On va faire circuler la parole.
Mais vous anticipez la réponse.
Laurent Cialom, est-ce qu'en même temps, avec ces aides publiques massives depuis le début de la crise, il n'y a pas aujourd'hui des entreprises qu'on peut qualifier, certains les qualifient de zombies, c'est-à-dire qui vivent de façon artificielle dans une forme de bulle protégée par les aides publiques? Je crois qu'il y a eu moins de faillites, 30% de moins de faillites l'année dernière que l'année précédente, en pleine crise.
Bien sûr, au moment où on a assisté et on a soutenu les entreprises, on ne pouvait pas faire du sur-mesure, c'est clair, et il fallait faire ce qui a été fait, en termes notamment de prêts garantis. On commence d'ailleurs à dire certaines dettes vont être annulées complètement.
Donc quand on va retirer ces aides, ces entreprises risquent de faire faillite?
Alors il y a un risque que l'on ne veuille pas reconnaître les pertes. C'est un risque, et en même temps, si vous voulez, c'est très compliqué de dire, il faut laisser faire faillite. Mais le risque vraiment qu'on a, c'est un enlisement un peu dans une situation à la japonaise, où on ne voudrait pas reconnaître les pertes et donc les créances douteuses des banques.
C'est quoi un enlisement à la japonaise?
Alors c'est-à-dire un enlisement dans une croissance très basse et avec des fortes pressions déflationnistes, c'est-à-dire à la baisse des prix, une inflation excessivement basse. C'est très difficile de sortir de ce type de situation, notamment quand le secteur privé est très endetté. Et Aujourd'hui, on a un secteur privé excessivement endetté, notamment en France, les entreprises. Et donc le risque, c'est qu'au moment de la reprise, on a effectivement un effet rebond, mais que assez rapidement, la volonté de se désentêter fasse que la reprise s'épuise, s'étiole, et ce faisant, qu'on s'enlise dans une situation. Et on ne sait pas sortir de ces situations. On le voit bien avec le Japon. On sait sortir de l'inflation, sortir d'une situation de stagnation. Alors, avec basse inflation, c'est beaucoup plus
difficile. Vous évoquiez l'endettement.
Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont négatifs. Donc, quand on emprunte, on s'enrichit. Pourquoi la dette est un problème?
Alors, je pense que la dette est un problème pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est une illusion de considérer que la dette peut se substituer au travail. Si vous n'avez pas en regard de cette capacité de dépense que fournit la dette des gens susceptibles de travailler, eh bien, vous allez avoir soit de l'épargne qui s'accumule, soit vous allez avoir du déficit extérieur. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, c'est que la France est dans la situation en termes de déficit extérieur, c'est-à-dire d'engagement qu'elle prend vis-à-vis de l'étranger, qui rappelle la situation de 82-83, c'est-à-dire la situation qui avait justifié la politique de rigueur justement que l'on dénonce et qu'avait mis en avant Pierre Mauroy. Donc la dette c'est une illusion s'il n'y a pas du travail en face. Et encore une fois, ce qui s'est passé dans cette dernière année, c'est pas tellement qu'on manquait de demandes, c'est qu'on empêchait les gens de travailler. Ça sert à rien de donner des revenus aux gens si les magasins sont fermés. Le deuxième élément, c'est que pour garder ces taux d'intérêt très bas, ces taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas, et donc vous désorganisez le rapport au temps. Grosso modo, vous avez tout un tas de théorie économique qui montre que l'équilibre, c'est quand le taux d'intérêt est égal au taux de croissance. Si vous vous installez dans une situation où le taux d'intérêt est systématiquement négatif, ça veut dire que vous entérinez l'idée que le taux de croissance lui-même va être négatif. Et le dernier élément, je prendrai l'exemple dont on vient de parler, c'est-à-dire le cas du Japon. C'est-à-dire le Japon, effectivement, est une économie qui est à l'arrêt, et pour essayer de sortir de cette situation d'arrêt, le Japon a accepté de creuser considérablement sa dette publique. C'est de très loin le pays le plus endetté du monde à l'heure actuelle. Je mets à part quelques cas exceptionnels, mais la dette publique du Japon, c'est 230% du PIB, avec toute une partie de cette dette qui est entre les mains de la Banque centrale pour que personne n'en subisse les conséquences immédiates. Résultat, mais le Japon se traîne, l'économie japonaise se traîne. Et donc je pense que le vrai problème, c'est de basculer cette idée que ce n'est pas la dépense publique financée par la dette qui crée la croissance, mais c'est véritablement la confiance au secteur privé soutenu par des taux d'intérêt réalistes.
Laurent Cialom, de surcroît, l'économie française, comme l'ensemble des économies de la zone euro, est régie par un certain nombre de règles. Un cadre qui est posé, le fameux traité de Maastricht, qui impose un plafond de 60% pour la dette, 60% du PIB, et de l'ordre de 3% pour les déficits publics. Aujourd'hui, la France est largement au-delà, à peu près 9% de déficit public, 118% de dette publique. Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat justement et sortir de ce cadre imposé par le traité de Maastricht?
Alors, bien sûr, on est complètement verrouillé. La situation européenne est verrouillée parce que on a une monnaie. Alors, si on prend juste la zone euro, on a une monnaie qui n'est pas une monnaie souveraine. Elle n'est pas adossée à un budget. Donc, il y a autant de risques souverains qu'il y a de pays membres de la zone euro. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas le droit de monétiser les déficits. Donc, on n'a pas le droit, en fait, de financer directement les déficits. Donc, qu'est-ce que fait la BCE? Elle ferme les spreads et donc elle permet. C'est-à-dire les taux auxquels elle rapproche les taux auxquels les États peuvent s'endetter. Bon, donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que en même temps on s'est lié les mains aussi d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire qu'on s'est donné ces fameuses règles qui n'ont vraiment aucun sens, qui n'ont aucun sens.
Qui en période de crise, elles n'ont plus de sens aujourd'hui.
Mais pas seulement en période de crise, qui ne sont absolument pas fondées scientifiquement, etc. Donc évidemment qu'il faut modifier. Le problème, c'est que pour modifier les traités, il faut l'unanimité. Et donc on a bien vu la difficulté déjà qu'on a eu pour arriver à boucler ce plan de 750 milliards d'euros, qui d'ailleurs n'a pas été ratifié partout. Donc voilà.
Il y en a un autre, si j'ose dire, qui fait de la politique, c'est Joe Biden aux États-Unis. Jean-Marc Daniel, lui, Joe Biden, il dépense sans compter. Il a annoncé plusieurs plans de relance de l'ordre total maintenant de près de 4 000 milliards de dollars. Ça, c'est sain, c'est bien pour relancer justement l'économie. Est-ce que c'est l'exemple à suivre par l'Union européenne?
Non, c'est pas l'exemple à suivre parce que les États-Unis sont dans une situation exceptionnelle par rapport au reste du monde. C'est-à-dire ils battent la monnaie mondiale et donc chaque fois qu'ils font du déficit extérieur, ce déficit extérieur se retrouve dans les caisses des banques centrales des pays vers lesquels ils portent leurs demandes et il reste dans les caisses de ces banques centrales. Grosso modo, vous regardez le déficit extérieur des États-Unis. En 2019, il était déjà relativement élevé. Il était de 480 milliards de dollars.
Et c'est utile pour relancer l'économie mondiale ce que fait Joe Biden.
Ah, mais c'est ce que disent les Américains. Ils disent nous sommes les consommateurs en dernier ressort de l'économie mondiale, heureusement que nous sommes là. Et il y a un certain nombre de gens qui disent effectivement, nous allons être les passagers clandestins, les free riders, comme disent les économistes, de la relance américaine. Mais le citoyen américain de base, lui, ça ne le console pas forcément de savoir qu'il va donner un emploi à des Asiatiques, à des Chinois, à des Vietnamiens, ou à des... Ce qu'il veut, c'est avoir... Il veut avoir un emploi et il veut avoir la certitude que cet argent va être... pour lui, va être bien utilisé. Or, ce qu'il voit en ce moment, c'est que les taux d'intérêt sont en train de remonter. Juste une chose, et le taux d'inflation est de 2,7% aux États-Unis. C'est ça que voit le citoyen américain.
Vous